Les podcasts de Bien en Périgord. Bonjour Cédric de Villeger, vous êtes chargé de mission auprès du parc naturel régional Périgord-Limousin.
Oui.
Vous êtes chargé plus particulièrement de quel domaine ?
Alors moi je suis ce qu'on appelle un animateur Natura 2000, c'est-à-dire que j'ai en charge la gestion de sites remarquables qui sont reconnus par l'Europe pour leur rareté, parce qu'elles contiennent, elles abritent des espèces ou des habitats rares. Et du coup, l'Europe met en place un budget avec l'État français pour maintenir en l'état, en bon état de conservation, ces habitats et ces espèces rares. On met en place des travaux de gestion, de restauration, des conventions avec les propriétaires. Moi, je mets en musique tout ça. Je suis un peu l'interface entre les propriétaires qui ont des parcelles sur ce site Natura 2000 et l'administration.
D'accord. Vous êtes le chef d'orchestre ?
On appelle ça un animateur.
Ok. Alors, le projet de préservation de la moule perlière s'inscrit dans un projet plus important, le projet LIFE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement en quoi il consiste ?
Alors, la rivière Drône, sur sa partie amont, abrite une population exceptionnelle d'un petit bivalve qu'on appelle la moule perlière, qui est un bivalve d'eau douce. Qui est dépendant d'une très bonne qualité d'eau. Ce qui peut impacter cette qualité d'eau ou la qualité de la rivière et de l'habitat de la rivière, c'est par exemple la présence de barrages, plus entretenus car plus d'usage économique par exemple, donc qui accumulent de la vase et des sédiments avec le temps et qui, sur un certain nombre de mètres linéaires, rendre le milieu impropre pour la vie de la moule perlière, parce que trop colmaté, on appelle ça trop vaseux. Et l'objectif du programme LIFE qui vient de s'achever, donc c'est un gros programme financé par l'Europe à 50% et aussi l'Agence de l'eau et d'autres partenaires, c'est de travailler sur la restauration de la rivière, notamment en travaillant sur les barrages, en les aménageant ou en les si possible, s'ils n'ont plus d'usage et si on a les accords des propriétaires. Et ça permet de redonner vie à la rivière, de lui redonner un cours naturel avec une vitesse de courant, une oxygénation et redonner un milieu favorable à la présence de la moule perlière. C'est un des gros volets de ce programme-là.
Alors, il s'est découpé en plusieurs étapes sur plusieurs années. Est-ce qu'on peut avoir une idée des étapes essentielles et principales ?
Alors, il y a eu différents volets. Il y a eu donc ce volet restauration des milieux en travaillant sur les barrages. Il y a eu aussi un volet important avec la création d'une station d'élevage de moules perlières afin de renforcer la population sauvage en élevant des juvéniles de moules perlières en captivité et en relâchant un certain nombre d'individus dans la rivière pour faire du soutien de population. Ça, c'est un deuxième volet qui était important. Et après, il y a tout un volet communication aussi qui a permis de financer des films qu'on retrouve sur le site internet qui a été créé pour ce programme. Si vous tapez LIFE au drone, vous allez tomber sur différents supports de communication tels film ou plaquette. Mais il y a eu ces deux gros volets, restauration de milieu et renforcement de population.
Alors, présentez-nous la moule perlière. On connaît l'huître perlière. La moule perlière peut-être un peu moins. Pourquoi est-ce qu'elle est en danger d'extinction et en quoi sa préservation est importante ?
Alors, on l'appelle moule perlière parce qu'elle peut potentiellement fabriquer une perle. En fait, comme beaucoup, voire la totalité des bivalves d'eau douce qu'on a chez nous, elles produisent de la nacre à l'intérieur des coquilles, qui est un phénomène de défense vis-à-vis d'un organisme étranger qui pourrait rentrer dans les valves, ou alors des lambeaux de peau nécrosés qui restent dans les valves. Elles entourent ces éléments-là de nacre et ça peut créer une perle. Je ne me rappelle plus de votre question.
Et alors, en quoi justement sa préservation est importante ?
Et donc, en quoi sa préservation est importante ? En fait, cette moule perlière qui a perdu une partie très importante de ses effectifs à l'échelle européenne et en France. Comme elle est dépendante d'une bonne qualité d'eau, elle nous sert un peu de ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est-à-dire que en travaillant sur le milieu de la moule carrière, si on arrive à avoir un habitat qui est favorable pour sa survie, on va avoir un habitat qui va être favorable à la survie de nombreuses espèces dépendantes d'une bonne qualité de la rivière. Et donc cette espèce-là qui a, je dirais, le bénéfice d'avoir un statut de protection et de reconnaissance européen, nous permet d'activer des financements importants pour travailler sur le milieu, mais c'est au bénéfice de toutes les autres espèces de la rivière et aussi au bénéfice de l'homme, parce qu'une rivière de bonne qualité, ben derrière, on a des usages qui vont pouvoir bénéficier d'une eau de bonne qualité également, soit pour la consommation humaine, par exemple, ou d'autres usages.
D'accord. Alors, entre 2016 et 2020, il y a eu une ferme expérimentale qui a fonctionné. Quels sont les apports qu'a pu apporter cette ferme expérimentale?
Donc, la ferme expérimentale, l'objectif, c'était d'essayer de réintroduire dans le milieu environ 15 000, 16 000 juvéniles de moules perlières. On a réussi l'opération, on a même été au-delà de ça, parce qu'on a pu en fait réintroduire presque 30 000 individus supérieurs à 1 an et plus d'1 million d'individus vraiment datés d'un jour ou deux. Le fait de pouvoir les relâcher dans le milieu après 1 an ou 2 ans en captivité, ça leur permet de passer une phase très critique chez les juvéniles, les premiers mois où l'espèce est très sensible, notamment à la qualité du substrat de la rivière, du fond de la rivière. Et si, donc, si le fond de la rivière est vaseux, colmaté, donc peu oxygéné, on a une très forte mortalité de juvéniles. Et le fait de les avoir en station pendant 1 an, 2 ans, avec des conditions optimales de captivité, on va permettre d'avoir un taux de survie qui va être supérieur et après on va les relâcher et on sait qu'après 2 ans, elles ont des chances de survie supérieures.
Oui, beaucoup plus
Donc,
importante, oui, c'est
voilà.
ça.
Donc voilà. Et aujourd'hui, on suit toujours, on continue de suivre un petit peu par un protocole spécifique les individus que nous avons lâchés. Et voilà, donc maintenant, ça fait, on a des plus vieilles moules, je dirais, qui ont été élevées en captivité, ont 6 ans maintenant. Et on a un très bon taux de survie sur ces individus qui commencent à être bien visibles à l'œil nu parce qu'elles dépassent les 3-4 cm.
Oui, j'étais étonnée de voir qu'effectivement, elles sont plus grosses que ce qu'on pourrait imaginer. Alors justement, ça a dû vous permettre de constituer pas mal de connaissances, peut-être de choses qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant.
Oui, alors la connaissance, elle est aussi, elle a beaucoup été apportée par un partenaire phare de ce programme LIFE, c'est l'Université de Bordeaux, qui a développé tout un volet connaissance de l'espèce, notamment sur les juvéniles, parce que donc, vous avez un stock de juvéniles assez important avec la ferme d'élevage, et ça nous permet d'améliorer pas mal de connaissances sur ces juvéniles-là, sur ben, ça. Sur les paramètres qui pouvaient être handicapants pour elle vis-à-vis de son taux de survie et notamment les valeurs seuil. À partir de quelle température seuil on a un taux de mortalité qui augmente lentement, quels sont les paramètres physico-chimiques de l'eau qui sont importants pour cette espèce, nitrate, phosphate, métaux lourds. Donc il y a tout ce volet connaissances-là qui a été aussi développé au cours du programme avec des thèses, des post-docs, des stages, voilà, qui ont tourné autour de ce sujet-là.
Alors, on parlait de l'université, il y a peut-être eu d'autres partenaires associés à ce projet, des partenaires locaux?
Ah ben après, des partenaires locaux, forcément, on a eu donc, la Fédération de pêche de la Dordogne, notamment, qui nous a fourni en truite fario, parce qu'il faut savoir que la truite fario est indispensable au
Oui,
cycle de reproduction de la moule
c'est ça,
carrière.
oui, j'ai
Il
vu
nous fallait
ça.
des
Oui.
truites à la ferme d'élevage. Et la Fédération de pêche de la Dordogne nous a permis d'accomplir ce cycle-là.
Oui.
Voilà. Partenariat forcément avec les élus locaux, partenariat aussi forcément avec les propriétaires d'ouvrages qui ont accepté d'avoir des travaux chez eux, voire d'effacer des barrages, modifier des ouvrages pour améliorer la qualité de la rivière. voilà, les pêcheurs locaux, et puis des associations naturalistes, voire des bénévoles locaux aussi qui nous ont aidés lors des tris, des comptages des jeunes mulettes à la ferme d'élevage. Il y avait des sessions assez fastidieuses, voilà, il fallait trier les petites mulettes à la loupe binoculaire. Donc c'était, voilà,
Ah oui.
du monde est venu nous soutenir.
Projet participatif, donc, où vous associez étroitement la population,
On a essayé
comme souvent les projets du
plus,
parc, oui.
voilà, et aussi avec un volet envers les scolaires assez important, avec les écoles du bassin versant de la Drôme, leur expliquer ce qu'on faisait, les faire sortir au bord de l'eau, parler de ce qu'est une rivière vivante, une rivière sauvage.
Alors, vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure, mais il y a des ouvrages dont vous en parliez par rapport aux propriétaires qui ont été réalisés sur la Drôme. Quelle a été leur utilité à ces ouvrages?
Donc, un barrage sur un cours d'eau comme la Drôme, ça a différents impacts. Ça a notamment un impact sur la température de l'eau. En faisant des suivis température juste à l'amont de l'étang créé par le barrage et juste à l'aval de ce barrage-là, on peut avoir des différences supérieures à 5 degrés. Ça
Ah
peut
oui.
aller jusqu'à 8 degrés dans des périodes de forte chaleur. Donc, un effet d'augmentation de la température qui, on le sait, est très impactant pour la moule perlière, parce que donc, les travaux de l'Université de Bordeaux ont montré qu'au-delà de 25 degrés, on a une mortalité en 2 jours
Oui.
des juvéniles qui augmente de 80%.
Oui.
Donc, dès qu'on a effacé un barrage, cet effet sur la thermie, on l'a tout de suite. C'est-à-dire que, voilà, on a une chute de la température qui est bénéfique aux espèces. On le voit, la restauration du milieu, on le voit assez rapidement. Sur la faune piscicole, notamment la truite fario, lorsque par exemple les fédérations de pêche font une pêche électrique, on peut voir des effets assez l'année d'après sur les augmentations du pic de truite fario. Sur la moule perlière, ça va être plus long, on va continuer de suivre pour voir si la moule perlière revient sur ces nouveaux secteurs
Oui,
restaurés.
et oui.
Comme c'est un individu qui a une maturité sexuelle à 15 ans, qui se déplace doucement, voilà, et grâce aux truites fario notamment, qui peuvent transporter les jeunes mulettes dans leurs branchies. Voilà, et le fait qu'aussi que ce soit visible à l'œil nu, des petites mulettes dans le cours d'eau, au moins, il faut attendre au moins 5-6 ans, les effets sur cette espèce-là, on va les voir voilà, dans les prochaines années. Mais les effets sur la qualité du milieu, on le voit tout de suite. C'est-à-dire, les mois qui suivent l'enlèvement d'un barrage, on redécouvre les graviers, on redécouvre les rochers de la rivière, on a un milieu qui se transforme très rapidement.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité des eaux de la Drôme?
Alors la qualité physico-chimique est plutôt bonne, parce qu'on est sur des terres d'élevage, donc avec assez peu d'intrants, voilà, des travaux qui ont été faits sur les systèmes d'assainissement collectif notamment. Donc on a une qualité physico-chimique qui est plutôt bonne. Là où ça pêche, c'était plutôt le nombre important d'étangs ou de barrages. Voilà, on a eu une augmentation de plus de 80% du nombre d'étangs sur le bassin de la Drôme dans les années 70. Et ça a été très impactant pour la rivière. Donc on essaye d'aménager ou de restaurer comme on fait par ces programmes-là. Donc par exemple, on a un effet, on le voit sur la température, je reviens sur la température, mais par
Oui.
exemple, la température de l'eau de la Drôme sur ses sources est supérieure à la température de l'eau de la Drôme à l'aval dans le secteur périurbain. Ce qui est inverse de ce qu'on trouverait normalement dans une rivière qui est plus fraîche à l'amont et plus chaude à l'aval, mais le nombre d'étangs étant tellement important sur la partie amont qu'elle n'a pas le temps de diluer cette augmentation de température. Et du coup, on se retrouve avec un milieu qui est très impacté à l'amont, et du coup, la moule perlière n'y est pas présente. Par exemple, sur les parties très amont de la Drôme, il faut attendre que la Drôme passe dans les gorges forestières des secteurs de Saint-Saulve, Champ-Romain, pour ceux qui connaissent, pour retrouver une eau oxygénée et fraîche, et la moule perlière, c'est là qu'elle est bien présente.
Alors, donc un bilan plutôt positif de ce projet. Est-ce qu'il va y avoir des prolongements par rapport à ce qui a été mis en place? Est-ce qu'il y aura des
On
suites?
espère. On espère que de nouveaux travaux, il reste encore du travail sur la Drôme. Le parc naturel régional Bayard-Limousin, c'est doté de la compétence rivière, qu'on appelle compétence GEMAPI, qui nous permet de continuer d'intervenir sur notamment sur des barrages ou sur d'autres travaux en rivière. Et on espère développer un nouveau programme avec l'Agence de l'eau sur la restauration du milieu. Donc normalement, il devrait y avoir de nouveaux travaux si les riverains et propriétaires nous accompagnent là-dedans. On attend forcément de leur aval. On pourra continuer d'améliorer le milieu.
Le message est passé. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Avec plaisir.